Radio Campus.
La patate, je te dis, j'y arrive pas, c'est naturel. 1, 2, 3, 4.
La radio dynamique.
Ah, putain, mais dégage, tu me dis.
La radio aimable.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire à la loupe. Et aujourd'hui, nous allons aborder une théorie qui fait écho à l'histoire extraordinaire d'un peuple de l'Occident médiéval. Parmi tous les peuples qui ont marqué le monde médiéval de leur empreinte, il en est un qui a suscité à la fois la crainte, la fascination et la curiosité. Ce peuple, ce sont les Vikings. Originaires de ces contrées septentrionales et froides que nos ancêtres sous nos latitudes imaginaient couvertes de neige et inhospitalières, les Vikings développèrent une civilisation basée sur la navigation et le commerce. Ils ne se dénommaient pas eux-mêmes Vikings. Il s'agit de la désignation générique faite par les autres peuples subissant leur venue. Le terme signifie « prince de la mer », qui souligne leur grande habileté pour naviguer sur l'océan. Ils se distinguaient plus sûrement sous l'appellation « Northmen », les hommes du Nord. Il s'agissait de nos Norvégiens, Suédois et Danois, mais aussi les Guettes, qui furent plus tard assimilés par les Suédois. Marins chevronnés, on leur reconnaît ces embarcations caractéristiques qui marquent toujours autant les esprits, les drakkars. Sortes de grandes barques à fond plat, fortement évasées, se propulsant à l'aide d'une voile carrée et à rames. Ils transportaient jusqu'à une quarantaine d'hommes, leur fonction étant polyvalente. Le Viking, en effet, est à la fois un marin, un marchand, un fermier et un guerrier. Un dicton scandinave dit d'ailleurs à ce sujet « L'homme sage n'est jamais loin de ses armes ». Connus pour ses raids dévastateurs et ses pillages, les expéditions, comme ils appellent leurs voyages, sont craintes des autres peuples. Mais certains autres, au contraire, les connaissent pour le commerce. Il s'avère que ce sont des orfèvres et des métallurgistes hors pair, dont les produits artisanaux sont très prisés. L'Empire byzantin les recrute dans la garde impériale. Il n'est d'ailleurs pas de plus grand honneur pour un valeureux viking de servir l'empereur. Ceux qui reviennent au pays en ayant rempli ce service sont honorés et respectés. Par le commerce et les pillages, nos Scandinaves sont allés très loin. Leurs drakkars leur permettaient de remonter les fleuves et les rivières, et même de « aller » ou « tirer » si vous préférez, leur embarcation sur la berge d'un cours d'eau, et de le déplacer de l'un à un autre, parfois à plusieurs lieues de là. Ils allaient très loin à l'intérieur des terres. Paris fut assiégé, mais Lyon aussi, de même que le sud de l'Italie. Les Varègues, les Suédois, furent même à l'origine de la Russie. Ils remonteront les fleuves et les rivières jusqu'à fonder Kiev. Ibn Fadlan, un voyageur arabe du XIe siècle, ambassadeur du calife de Bagdad, racontera avec force détail comment il a été le témoin des funérailles d'un chef viking. Sa dépouille brûlait selon les rites païens sur un drakkar dressé sur un bûcher, sur les bords de la Volga, au cœur des steppes d'Asie centrale. Sur un territoire où vivaient les Bulgares, à près de 2000 km au sud-est de l'actuelle Moscou. Nos hommes du Nord sont même allés certainement encore plus loin, puisqu'on a retrouvé en Suède une statuette à l'effigie de Bouddha, datée du Xe siècle. À l'autre bout de la planète, à cette même époque, les Norvégiens découvrent l'Islande. Un certain Éric le Rouge, exilé pour meurtre, recherche une terre pour les siens. Il découvre le Groenland. Son fils, Thorvald, va plus loin et arrive sur une île boisée, peuplée d'indigènes à la peau cuivrée, les fameux Amérindiens, que l'on distinguera plus tard lorsque Christophe Colomb ouvrira la route de l'exploration d'un nouveau continent que l'on va appeler l'Amérique. Cette île, qui semble être l'île de Terre-Neuve dans l'actuel Canada, sera baptisée Vinland, le pays de la vigne, comme on le croira faussement, le terme signifiant en réalité le pays des prairies. Les Vikings sont nombreux pour un territoire de plus en plus étroit, d'où les raids et les pillages pour acquérir des biens qui sont la première étape avant de coloniser des terres. Le Vinland pouvant intéresser des éleveurs de bovins et d'ovins, d'autres vikings s'installèrent, mais ils durent renoncer, faute d'être nombreux, et devant l'hostilité des autochtones. Ce qui va suivre tient de la théorie, mais repose sur des éléments qui incitent à réfléchir quant à sa véracité. Dans les années 70, des archéologues exhument un drakkar dans la baie d'Hudson, soit très loin au cœur du Canada, plus loin que le Vinland. Ils ont certainement pu aller plus loin. Et pourquoi pas jusqu'au Mexique? Quand les Aztèques voient débarquer les Espagnols, commandés par Hernán Cortés en 1519, dans la baie de Veracruz, ils pensent que lui et ses hommes sont les envoyés de leur dieu, Quetzalcoatl. Ce dieu est casqué, vêtu d'une cotte de mailles, et surtout, il est blond. Par ailleurs, le dieu était venu de la mer de l'Est, promettant de revenir. Ce que les présages chez les Aztèques annoncent depuis des siècles. Comment ce type blond a pu arriver chez les précolombiens? Quetzalcoatl est représenté comme un serpent. Cela nous évoque quoi? Le bateau des Vikings, le fameux drakkar, vient de draken, qui signifie dragon. Cela vient de la figure de proue du bateau qui a pour tâche d'éloigner les mauvais esprits, qui est une tête de dragon sculptée. Le serpent, comme le dragon, sont des reptiles et présentent des similitudes. Les précolombiens auraient vu débarquer nos hommes du Nord? Probable, compte tenu des éléments que vous venez d'entendre. Mais alors, pourquoi n'en existe-t-il aucune trace? Les sagas vikings, les fameux contes chantés par les Skalds, l'équivalent viking de nos troubadours, ne font nulle mention de territoire au-delà du Vinland. Il y a quelques réponses à apporter à cela. D'abord, les Vikings rapportent toujours la dangerosité de leur voyage dans leurs sagas. Même des voyages routiniers pouvaient être meurtriers. Attaques de pillards, raids, même le passage de simples cours d'eau avec de forts courants. La colonie du Vinland fut abandonnée car les indigènes étaient hostiles. Mais même certaines colonies du Groenland furent perdues avec tous leurs habitants, faute de contacts réguliers avec la mère patrie. Et condamné à vivre en autarcie. Pour atteindre la côte mexicaine, les Vikings auraient débouché bien avant l'explorateur français Samuel de Champlain en 1610, soit 700 ans plus tard, les Grands Lacs, puis le fleuve Mississippi. En descendant ce Grand Lac, ils auraient atteint le delta de la Louisiane, puis le golfe du Mexique. Restait à explorer alors la côte par cabotage. Les Vikings également partaient peu nombreux, et étaient vulnérables aux attaques de partis plus nombreux. Leur force résidait dans la surprise et l'embuscade. On sait du récit des conquistadors espagnols que la forêt vierge et le climat tropical, ainsi que les peuplades autochtones, ont dévoré des expéditions entières de plusieurs centaines d'hommes. Alors nos vikings, qui n'étaient que quelques poignées, je vous laisse imaginer. Que ce soit au sud des États-Unis actuels ou au Mexique, sans parler des animaux et des moustiques, porteurs de maladies. Les expéditions probables de vikings dans ces contrées ont pu se perdre, corps et biens. Mais le mythe de Quetzalcoatl reste un point intrigant. Autre source qui nous fait réfléchir quant à cette expansion viking. J'avais parlé plutôt des voyages de Saint Brandan, moine et navigateur irlandais du 5e siècle. Certaines traces historiographiques prétextaient qu'il avait atteint le Brésil. Les Celtes, partageant avec les Scandinaves une riche tradition navale, nos vikings ont très bien pu se laisser porter par le goût de l'aventure jusque-là. Mais en revenir, c'était une autre histoire. Je vous remercie pour votre fidélité et j'espère vous avoir très prochainement à l'écoute pour un nouveau numéro d'Histoire à la loupe. Au revoir.
Thank you. You got some more to tell about, no, but...